Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission qui s'appelle aussi Radicaux Libres. Mais sur quel site? Et bien sûr radioalpa.com, bien sûr. On aurait pu vous parler, mais de quoi? Non, mais ça n'a pas fait les gros titres, puisque cette semaine, il fallait encore parler en long, en large et en travers, dans le désordre d'ailleurs, de la préparation de la Chandeleur par le produit marketé du Rassemblement National, j'ai nommé Jordan Bardella. Oui, il lui manque le lait. De la préparation des fêtes de fin d'année, exactement, hein, puisqu'il y a bonne humeur et dérangement gastrique obligatoire. Il fallait également parler de la préparation des séjours au ski pour la bourgeoisie qui peut se le permettre et pour les auditeurs du direct. Depuis hier, il va falloir parler de la Coupe du Monde de balle au pied. Eh ben oui, mais c'est normalement la superbe incertitude du sport. Donc on ne peut pas gloser en long, en large et en travers sur le fait qu'on va gagner ou pas. Mais fin novembre, il s'est passé quand même quelque chose. En l'occurrence, l'assurance maladie a fait paraître son rapport sur les risques professionnels en 2024. La Caisse nationale d'assurance maladie s'occupe de presque 21 millions de salariés sur les 27 millions que compte la France, auxquels il faut ajouter 3,5 millions de non-salariés. Et vous avez la population active qui travaille aussi. Les informations que nous allons donner doivent être augmentées des chiffres de la MSA, par exemple. Ils doivent être augmentés des chiffres de ceux qu'on appelle les indépendants. Mais quand même, grâce à la Caisse nationale d'assurance maladie, sur 21 millions de salariés, on apprend qu'en 2024, il y a eu 1297 décès liés au travail, 764 décès dans les accidents du travail, 318 décès consécutifs à des accidents de trajet et 215 liés à des maladies professionnelles. Des chiffres qui nous montrent que l'emploi tue. Et pas qu'un peu. Il tue sur place, il tue après aussi, puisque les maladies liées au travail sont des choses que vous avez contractées au moment où vous étiez en situation d'exploitation et qui, au fur et à mesure, vont commencer à vous bouffer la vie. Typiquement, il y avait le cas de l'amiante qui est de moins en moins présent. Devinez pourquoi ? Parce que la plupart des gens sont morts. Il abîme aussi ce travail, et pas qu'un peu, presque 600 000 accidents du travail en 2024, c'est énorme. Il abîme pendant et il abîme après. Il abîme les corps et il abîme les esprits, puisque la Caisse nationale d'assurance maladie nous dit bien que les situations d'arrêt de travail liées à des problèmes psychiques au travail sont de plus en plus importants. Et ouais, les gens deviennent fous. Simplement de quoi ? D'être au boulot, de gagner sa vie, comme on dit. Le travail, il abîme les relations humaines sur les lieux d'exploitation, mais aussi dans les familles. Il abîme les relations à la ville, à la campagne, chez les rupins, chez les prolos. À lire sur le sujet la nouvelle édition du bouquin de Marie Peset qui avait fait paraître son livre à la fin des années 90 et une nouvelle réédition en 2023. Le bouquin s'appelle « Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient touchés ». Pour ceux qui voient un lien avec La Fontaine, c'est normal. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient touchés. Elle parle là, Marie Peset, du travail, puisque ce livre est sous-titré « Souffrance et travail ». Après avoir baissé jusqu'au milieu des années 2010, les chiffres des morts et des blessés remontent fortement. En 2017, pour 19 millions de salariés, 550 personnes meurent au travail. On va prendre simplement ce chiffre, 250 furent victimes d'accidents de trajet et 300 de maladies professionnelles inscrites au tableau des maladies professionnelles. Ils sont un petit peu moins en ce moment, ceux qui meurent. Je vous rappelle, le cas de l'amiante s'est passé. On était en 2017, 1100 décès liés au travail reconnus par l'assurance maladie. Et depuis, ça ne cesse de monter. Entre 2017 et 2024, il y a eu 10% d'augmentation du nombre de salariés qui sont gérés par la Caisse nationale d'assurance maladie, mais aussi 18% d'augmentation du nombre de morts, puisqu'on est passé de 1100 décès à 1297. Tout en sachant que, je vous l'ai dit, les maladies professionnelles, elles, non pas que ça s'écroule, mais ça a perdu à peu près un tiers. Ce genre d'information devrait parler aux libéraux qui ne jurent que par des données chiffrées. Le nombre d'accidents du travail diminue, mais le nombre de maladies professionnelles augmente. Le nombre, pas le nombre de morts, le nombre. Rongé petit à petit par le boulot, par contre, les libéraux, souvent court-termistes, se foutent pas mal des incidences de l'exploitation des ressources humaines sur le long terme. Surtout que les maladies sont assumées par le collectif, c'est-à-dire par nous tous. Pourquoi l'emploi tue et abîme ? On pourra trouver des explications dans les lois travail pondues du temps où le PS de Hollande était aux manettes. J'ai pas dit Parti Socialiste, j'ai pas dit les socialistes. Des diverses coupes franches également peuvent expliquer cette augmentation de l'emploi qui tue et qui abîme. Les diverses coupes franches dans les budgets de la médecine du travail, par exemple, opérées par la Macronie, la fin des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dont les fonctions doivent maintenant être assumées par les CSE. Plein de fonctions ont été fondues dans les CSE. Fondues, mais encore une modification du droit du travail pro-patronal mise en œuvre par les macronistes. On devrait aussi se demander si les logiques d'augmentation continue du PIB sont compatibles avec la vie humaine. Mais là, ça nous emmènerait trop loin. Mais pas le temps, non, il faut préparer la dinde, il faut préparer le chapon ou tout autre animal mort pour impressionner dignement ses invités. Et dis donc, Qatar-Sénégal, t'y crois, toi ? On aurait pu vous parler des libéraux qui se mettent à soutenir la reprise des entreprises en sociétés coopératives, comme pour Brandt, dont on a beaucoup parlé cette semaine. La coopération plutôt que la concurrence, on ne le dira jamais assez. Dans le même temps, les libéraux qui nous gouvernent, parce qu'on se laisse faire, proposent des budgets avec des coupes sombres pour le secteur de l'économie sociale et solidaire auquel participe l'ESCOP, le secteur de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, c'est le secteur des associations, des entreprises d'insertion, des mutuelles et des coopératives. En 2025, 54% du budget de l'État pour soutenir l'ESS a été supprimé. Ouais, on est passé de 26 à 12 millions. Pendant ce temps-là, des dizaines de milliards, et certains parlent de centaines, servent à soutenir des entreprises qui engrossent des actionnaires. C'est moche. Alors non, Sébastien Martin, ministre délégué à l'industrie, qui trouve l'idée de la SCOP excellente, n'est pas un camarade. Il aurait soutenu n'importe quelle forme de reprise s'il pouvait la récupérer, cette reprise, pour dire « Eh, regardez, l'État, on fait des trucs pour sauver l'emploi ». Je rappelle qu'il est plus important de sauver les êtres humains que des emplois. On aurait pu vous parler des féministes identitaires de Némésis, dont le combat est salué par le ravi de Vendée qui triche à Interville, à savoir Bruno Retailleau, qui ont encore fait des leurs en déployant une banderole raciste près du marché de Noël de Strasbourg. Ben, on sait qui est aimé et qui aime Bruno Retailleau. Mais finalement, on a préféré vous parler des municipales.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Au Mans, les listes se multiplient. Et oui, on a maintenant donc Lutte Ouvrière qui s'est déterminée il y a déjà un certain temps. LFI qui part seule. Les écologistes, les dissidents du PS, de Citoyens écologistes et solidaires, et le PCF et le collectif Fraternellement qui fondent une liste ensemble. On a aussi une liste de droite, donc il s'appelle encore comme ça, Droite Républicaine, donc Les Républicains Horizon l'UDI. On a également une liste RN. Et tiens, j'étais en train d'oublier à l'extrême gauche une ligne Révolution Permanente. On apprend cette semaine que le parti Renaissance, en gros les macronistes, n'ont pas réussi à s'entendre avec les partis de droite. Alors ils envisagent de soutenir la majorité sortante, c'est-à-dire le PS anti-NUPES de Monsieur Le Foll. Ouais, alors là, en termes de dérive idéologique, mais ils ont peut-être une certaine cohérence en soutenant des partis de droite et le PS anti-NUPES. Allez savoir ! Et toujours pas de liste démocratique. Eh non, on a pléthore de listes, mais toujours pas de liste démocratique, c'est-à-dire pas de liste participative comme les 600 listes formées pour les élections de 2020 qui avaient pour but de redonner le pouvoir de décider à la population. Pas simplement le pouvoir de voter, non, le pouvoir de décider. Comme celle, par exemple, qui se constitue en ce moment même à la Ferté-Bernard et dont nous reparlerons lors d'une prochaine émission. Pour donner des idées à ceux qui souhaiteraient agir pour le bien-être des populations, dans la dernière émission, vous avez pu entendre Yves Delcroix, un élu de Chambry-les-Tours, qui d'ailleurs se représente lui-même.
Yves Delcroix, je suis élu conseiller municipal depuis 2020. Je suis en délégation sur l'environnement, et les espaces verts de ma commune, et avec une mission très précise de délégation sur l'installation d'une ferme maraîchère municipale.
Et c'est ce dernier mandat qui nous a intéressés, une ferme municipale administrée en régie. Pour en connaître la genèse, reportez-vous à l'émission précédente. Hein. Pour avoir des conseils et pour la mise en œuvre d'une telle ferme, c'est maintenant.
Ce genre de démarche doit d'abord être une démarche très politique. Alors, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est un projet qui structure la démarche publique en vue d'avoir un intérêt collectif. Ça, c'est hyper important, première chose. Deuxième chose, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de producteurs dans le périmètre qui seraient en mesure de fournir une collectivité en maraîchage bio. Nous, on a fait très attention à ça, qu'il n'y ait pas d'équivoque avec une exploitation qui serait à la fois sur notre commune ou à côté et qui aurait pu être en capacité de le faire. Et donc, il faut faire très attention à ça, de ne pas déstabiliser un système économique qui est déjà en place, qui s'avérerait être très fragilisé si on mettait en place ce genre de structure. Donc nous, on n'avait pas ça. On a trouvé quelques maraîchers bio autour de Tours. Ça les intéressait pas, d'une part, de vendre à une municipalité, parce qu'ils savent très bien que de vendre à une municipalité, ça demande des régularités, que l'été, il y aurait moins de demandes, que deuxièmement, les prix que nous, on demanderait sont des prix qui sont bien inférieurs à ce qu'on demanderait du marché classique. Donc, du coup, ça les intéresse pas. Et puis, en plus, ils ont un problème de volume. Donc, est-ce qu'ils sont capables de produire pour l'équivalent de 1000 repas jour? Ça poserait d'énormes soucis. Donc, on n'est pas dans la concurrence déloyale en termes de production.
Et oui, comme nous l'avons déjà noté, au niveau économique, la compétence générale des communes est limitée par la concurrence du privé. Mais cette compétence donne quand même le pouvoir d'agir et par exemple de nourrir les marmots des établissements publics comme les écoles. Au niveau pratique, quel a été le coût d'installation et de fonctionnement de la ferme de Chambray-les-Tours? Et qu'est-ce que ça apporte, cette ferme? Eh bien, on écoute Yves Delcroix qui nous décrit l'ensemble des réponses à ces questions. Quel est le coût de l'installation de la ferme de 2 hectares qui est exploitée en régie municipale? Est-ce que vous pourriez nous les décrire, ces coûts?
Le gros avantage que nous avions, c'est que nous étions déjà propriétaires de la terre. Lorsque j'ai dit à monsieur le maire qu'est-ce qu'on peut mettre comme argent sur la table, il m'avait dit en gros ta carte blanche. À l'époque, moi j'avais dit attention, on n'a pas de forage, on n'a pas d'eau. Si on a de l'eau, c'est de l'eau publique. Ça sera insuffisant en débit et puis on risque de payer très cher, donc il fallait prévoir un forage. Je pensais pas qu'on serait descendu aussi profond, puisqu'on est à 93 ou 14 mètres. Ça a été quelque chose autour de 80 000 euros, donc ça a été un coup de barre qu'on n'avait pas trop prévu. Au total, pour faire très simple, aujourd'hui, l'ensemble de l'investissement qui comprend le forage, l'installation de la serre, l'installation de l'irrigation localisée. On a 2 hectares bruts, mais on a 1 hectare net productif. Sur 1 hectare net, tout est installé en micro-irrigation. Tout ça, ça nous a coûté 300 000 euros aujourd'hui d'installation. On a mis 200 au début, puis sur les 2 années suivantes, on a rajouté 100 000 au fur et à mesure de certains autres investissements comme l'irrigation qui n'a pas été fait tout d'un coup, qui s'est développé. On a installé également un hangar pour protéger la laveuse de légumes. Voilà, des petits détails comme ça qui sont venus se rajouter. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est au bout de nos investissements. On peut aussi parler d'argent en termes de fonctionnement. Le fonctionnement, c'est essentiellement les salaires. On a 1,5 agent temps plein sur la ferme. Quand je dis 1,5, c'est-à-dire que du 1er novembre au 1er mars, c'est 1 seul agent. Et ensuite, du 1er mars au 1er novembre, c'est 2 agents. Donc, on arrive à peu près à 1,5 sur l'ensemble de l'année. Le coût du fonctionnement aujourd'hui, c'est 80 000 euros.
Alors, on parle d'un coût de fonctionnement, mais il y a aussi des résultats. De fait, ce qui est produit sur cette ferme appartient à la municipalité de Chambray-les-Tours.
Notre maraîcher, il est arrivé en mars 21. Il a réussi à produire quelques légumes fin 21. Alors, c'était des bricoles, hein, on n'avait pas de serre encore à l'époque. Il a dû faire 2 ou 3 tonnes. Et 2022, la serre est installée. Première arrivée en production, on a fait 6 ou 7 tonnes. Et depuis 23, donc 23, 24 et 25, on est à 30 de fleurté autour d'une 15 tonnes de production annuelle. Sur 1 hectare net, c'est beaucoup. C'est au-delà de la moyenne nationale quand on fait référence avec BioCentre. pour savoir où est-ce qu'on en est dans la référence nationale en culture bio. On est en maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire que on n'a pas du tout de mécanisation, ce n'est qu'un travail avec la matière organique, hein, il fait énormément de paillage végétal. Dans ce type de production, une quinzaine de tonnes de moyenne, c'est un bon rendement. Cet ensemble de légumes est complètement livré dans sa totalité à la cuisine centrale. On a des capacités à pouvoir augmenter un petit peu plus. Ben après, ça sera un problème de main-d'œuvre parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre. Alors, quand je parle de tonnes de légumes, c'est compliqué. Si c'était 15 tonnes de pommes de terre sur un hectare net, c'est plutôt un rendement correct. Mais c'est pas 15 tonnes de pommes de terre. On fait d'ailleurs pas du tout de pommes de terre pour une raison toute simple, hein, à la fois technique parce que il faut avoir du matériel qui puisse à la fois semer et récolter. Parce que si vous faites tout à la main, c'est hyper chronophage. Et puis que le sol est quand même pas des plus adeptes à faire ce genre de produit. Donc on est plutôt parti sur d'autres légumes, carottes, poireaux, échalotes, du céleri rave, etc. Et puis on a d'autres qui sont produits sous serre de façon précoce avec des tomates, des concombres, on fait même du melon en période estivale. Et puis notre maraîcher essaie toujours de produire des choses un petit peu originales comme la patate douce qui cette année nous a donné un très très bon résultat. Vu le panel de légumes que nous fournissons, c'est vraiment un rendement très honorable.
Est-ce que ça ne sert que pour les écoles ?
La cuisine centrale de Chambray-les-Tours a été installée en 2019. Elle est toute moderne. Elle centralise la fourniture pour 5 écoles primaires et maternelles, plus des crèches. On ne produit pas pour d'autres structures. Ça aurait pu être, par exemple, des EHPAD, ça aurait pu être une collectivité mitoyenne, etc. L'été, on produit pour nos centres aérés. En termes de chiffres, on fournit environ 1000 repas jour pendant toute la période scolaire. Et pendant les périodes de vacances, ça tombe autour de 300 repas pour les centres aérés. Concrètement, notre maraîcher doit s'adapter à ce genre de fluctuation, surtout quand c'est la période estivale. Parce que du 1er juillet ou du 5 juillet, selon le début des vacances, jusqu'au 1er septembre, c'est là où, traditionnellement, les légumes ont plutôt tendance à produire beaucoup. Donc, il faut être capable de produire avant le 1er juillet et de produire plutôt à partir du 15 août pour que, voilà, en septembre, on ait aussi un pic de production. Donc, ce qui fait que l'été, on est sujet à des petites variations liées au climat qui font qu'on peut avoir des fois des petites surprises. Je prends un exemple, l'an dernier, on a eu d'un seul coup 400 kilos de concombres qui nous sont tombés dans les mains en une semaine. C'était inabsorbable par la cuisine centrale. Et donc, on a été obligé de donner ça à des associations caritatives comme la Banque alimentaire. Cette année, on a eu pareil un excédent de pastèques. Vous voyez, une catégorie de légumes qui est un petit peu originale. Beaucoup de collectivités comme Auray qui s'est installée il n'y a pas longtemps ou d'autres collectivités à travers la France qui sont parties en régie, ils ont cette problématique de pics estivaux. Et donc, effectivement, il y a des solutions. Nous, on en a trouvé une petite parade. En 2023, on avait un peu trop de tomates. On a fait de la transformation avec une conserverie. On a arrêté parce que ça nous a coûté quand même très cher. On a ensuite développé du stockage en surgélation. Donc, on a investi sur 2 petits surgélateurs qui font chacun 2 mètres cubes, ce qui nous permet de mettre pas mal de produits dedans. On ne peut pas, malheureusement, transformer et congeler. On n'est pas équipé pour ça. On aurait l'Agence régionale de la santé sur le dos. Tout de suite, on s'amusait à faire ça. Donc, on n'est pas équipé. On n'a pas une chaîne pour faire ça. Alors que moi, surtout, je vais poser la question. Eux se sont équipés de ce genre de chaîne de transformation et fabriquent par exemple des tomates farcies qui congèlent, qui sont ensuite ressorties l'hiver. Donc nous, on ne peut pas faire ça.
À l'avenir, ça pourrait être de combiner à la fois la production et la transformation.
C'est une piste qu'il ne faut pas que les nouvelles équipes évacuent. On en a une autre, parce que la cuisine centrale a une capacité de, je crois, de 1500 ou 1800 repas jour. On a de la marge. On pourrait, par exemple, imaginer, j'ai vu ça sur Annecy, faire de la restauration pour des seniors, que ce soit des gens qui sont en EHPAD ou pas, et qui auraient envie de se retrouver autour d'une tablée, donc leur préparer des repas, peut-être moyennant 1 euro ou 2 euros le repas, vous voyez, quelque chose qui soit un petit peu symbolique, pas la gratuité d'emblée, avoir ou du personnel ou plutôt des bénévoles qui viendraient faire le service. Ça pourrait être hebdomadaire, ça pourrait être 2 fois dans le mois, ça pourrait être qu'une fois par mois, à eux de trouver le régime, mais ça pourrait être une piste, parce que on a été sollicité par des EHPAD, on en a 3 sur notre collectivité, qui serait intéressé. Après, il faut juste voir les modalités financières, parce que une collectivité ne peut pas vendre sa production. On serait dans l'illégalité la plus totale si on faisait, par exemple, des ventes au public ou des ventes à, effectivement, des structures comme des EHPAD. On n'a pas le droit, on serait en concurrence déloyale, puisqu'effectivement, c'est un soutien public, l'installation de cette ferme, que du financement public. Donc, on ne peut pas se mettre sur le marché concurrentiel. Alors, peut-être que pour des EHPAD, il y a peut-être des possibilités de combinaison, puisque ça a quand même un intérêt social. Ça serait pas idiot. On peut développer en disant que c'est du bio, que c'est du local. Je pense qu'il y aurait des combinaisons et on serait pas forcément embêté en termes d'illégalité. Je pense pas. On a fait appel à notre cabinet conseil en affaires juridiques, qui lui a été formel, pas de vente au public. Même dans les dons, il faut que nous soyons prudents. On peut donner, dans certaines mesures de volume, que si c'est lié à des pics accidentels de production, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas prévu de produire plus pour pouvoir donner, vous voyez ce que je veux dire. Et que ce ne soit pas toujours les mêmes bénéficiaires. Alors bon, la banque alimentaire, je pense que l'État ferme les yeux, parce qu'il y a tellement de nécessités là-dessus qu'il dirait trop rien. Mais je sais pas, si on s'amusait à donner une association, j'ai pas d'idée en tête comme ça, mais d'une façon un petit peu trop régulière et toujours les mêmes, on pourrait peut-être soupçonner de privilégier certains plus que d'autres. Y compris déjà des simples citoyens qui pourraient dire, mais attendez, moi je paye de l'impôt pour la ferme, c'est très bien qu'on donne pour la collectivité, pour la cuisine centrale, pour nos enfants, ça il y a pas de souci. Mais par contre, que vous donniez toujours à telle association, pourquoi moi, j'aurais pas le droit, en tant que simple citoyen, aussi d'avoir droit à récupérer quelques légumes. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses, d'aller trop vers des privilèges sur certains organismes ou certaines structures.
Donc la gestion de cette ferme, c'est tout un programme. Les aléas d'abord supportés par tout paysan se retrouvent, mais en plus, il y a la contrainte du fléchage de la production. Elle ne peut pas être utilisée comme on veut. Surtout qu'à Chambry-les-Tours, la municipalité doit faire avec un autre acteur.
Au niveau de la cuisine centrale, en fait, c'est une structure un peu spécifique. Nous faisons appel à un prestataire qui vient faire la cuisine. C'est-à-dire que nos enfants ne mangent pas que des légumes. Il y a de la viande, il y a des œufs, il y a du lait, il y a des oranges, les bananes et autres fruits, les pêches, etc. viennent évidemment de l'extérieur. Et donc c'est ce prestataire qui s'occupe de ça. Et donc ça veut dire qu'en termes de finances, il faut estimer quelle est la valeur de ces 15 tonnes de légumes qu'on fournit à ce prestataire. Donc tous les ans, on fait un accord de marché avec eux et on est parti sur l'idée suivante. On va statuer la valeur de nos légumes espèce par espèce, en se basant sur le référentiel du marché d'intérêt national de Nantes. Donc en 2022, mais surtout 23 et 24, on avait pris cette référence-là. Et depuis 2025, janvier 25, on a réussi à négocier la valeur moyenne du marché d'intérêt national de Nantes, plus 10%. Et on s'est interrogé, on s'est dit, mais est-ce qu'il va pas nous fuir? Est-ce qu'ils vont pas nous abandonner? Et en fait, on leur a un petit peu carrément posé la question. Et eux, ça les intéresse de continuer à travailler dans ce système-là parce que, quelque part, ils dorment leur blason. Ils disent, voyez, nous, prestataires lambda, nous travaillons avec une régie municipale maraîchère, on arrive à trouver un équilibre, et du coup, ça se passe très bien. On sait que, par exemple, en termes de prix de revient, le coût de production de nos 15 tonnes, ramené au kilo, c'est autour de 5 euros à 5,50 euros du kilo produit. La cuisine centrale, on sait ce qu'elle nous coûte, ce qui fait que le prix repas, on le connaît. On a donc deux repères technico-économiques, donc on a ces chiffres-là. On ne sait pas si on est dans l'équilibre.
Ouais, ça cote un petit peu sec, désolé. Mais cette histoire d'équilibre est-elle l'essentiel? Eh bien, laissons la conclusion à Yves Delcroix, élu à Chambry-les-Tours, sur la question justement de la ferme municipale qui est organisée en régie.
L'équipe municipale s'est jamais posé la question, même si une fois il y a un élu qui m'a dit « oui, il faudra regarder le retour sur investissement ». Et j'avais répondu, je me rappelle très bien à ce collègue, j'avais dit « parce que quand tu mets 300 000 ou 400 000 ou 1 million d'euros sur l'aménagement d'un gymnase, tu as réfléchi au retour sur l'investissement ?» Il n'y a jamais de retour sur l'investissement. On a un club de hand qui joue au niveau national et même européen. On fournit le gymnase, on l'a développé, on l'a amélioré. Et tout ça, c'est, j'allais dire, sans perte nette. Si on était en entreprise privée, c'est de la perte nette. Donc, quelque part, la municipalité met du bien public, j'allais dire, pour le bien-être de ses citoyens. une régie municipale qui fournit des produits bio pour ses enfants scolaires, ça rapporte, entre guillemets, à la commune, c'est-à-dire que ça rapporte dans le sens du bien-être de ses enfants. On essaie d'assurer une meilleure qualité pour eux, une meilleure santé, puisqu'on leur produit des produits qui sont bio, qui sont pas traités, qui subissent pas de pesticides, etc. On sait qu'on est vertueux dans cette démarche. Donc, moi, je crois que, et je vais terminer là-dessus, c'est vraiment une volonté politique de donner du bien-être à sa population, pas dans un souci de rentabilité ou quoi que ce soit. Et donc, je crois que c'est le rôle, vraiment le rôle d'une collectivité d'être dans cette démarche-là.
Une démarche politique, voilà ce qu'il faut retrouver dans les municipales, qui vise à augmenter l'autonomie d'action municipale et même son autonomie économique. Ça doit être au programme d'une liste de gauche. Eh ben, on espère que dans tout le lot qu'on a cité au début, il y en a. Participer au jeu de la concurrence entre territoires en rabotant sur les services rendus à la population. Faire plaisir au monde économique ne peut pas être une priorité pour une liste de gauche. Et comme dirait l'autre, pour lutter contre le capitalisme et sa philosophie libérale, il convient de s'organiser collectivement pour ne plus en avoir besoin ou en avoir toujours moins besoin. De ce capitalisme. Et si vous avez par devers vous des élus, des candidats, ou si vous avez la velléité de participer à une liste participative, eh bien renseignez-vous auprès de la Maison d'éducation à l'alimentation durable pour une ferme municipale en régie. Elle a été développée, cette Maison d'éducation à l'alimentation durable, à Mouans-Sartoux, cette commune des Alpes-Maritimes, qui a créé la première ferme municipale en régie en 2011. Et vous tapez MEAD, M-E-A-D, Mouans. Alors Mouans, bah, c'est Mou, ANS, M-O-U-A-N-S, Sartoux, S-A-R-T-O-U-X, sur votre moteur de recherche préféré, c'est parti. Hein, Méa de Mouans, Sartoux. Vous aurez aussi l'avantage à découvrir l'association 1 plus bio sur leur site, 1 plus bio en toutes lettres tout attaché.org. Quand vous êtes dessus, cherchez le petit guide du foncier nourricier, ça donne des idées. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas et qu'on ne vous aura pas prévenu.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là,
que la commune n'est pas morte,
que la commune n'est pas morte.
Bon ben nous on a presque terminé, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien il se passe-t-il que le samedi 6 décembre il y a une manifestation de solidarité avec les Palestiniens à 14h place de la République et vous avez une manifestation de solidarité avec les Soudanais-Soudanaises à 15h place du Jedo. Et oui, au Soudan il y a eu un coup d'état militaire, le coup d'état militaire a entraîné une sécession au sein du Soudan qui avait déjà supporté une sécession avec le Soudan du Sud. Bah, c'est un bordel là-bas, toujours des enjeux de pouvoir, qui est-ce qui morfle la population? Donc 15h place du Jedo, 14h place de la République. Vous pouvez aussi faire une vélorution pour le climat, ça a lieu lundi 8 décembre à 18h45, rendez-vous maison de l'université, arrêt tram campus Ribé, en marge de l'événement Journée mondiale du climat, lundi 8 décembre 2025 à 18h45. Vous pouvez aussi là, dans les prochains jours, aller à une conférence-discussion sur la laïcité avec Jean Bobéro. Jean Bobéro, c'est à la Maison pour tous de Jean Moulin. Ça sera sur la laïcité. Je vous rappelle que la laïcité, c'est l'indépendance vis-à-vis des religions. Accepter toutes les croyances, d'accord, mais dans ton coin, mon gars. Ouais, tu crois, mais dans ton coin, d'accord. Tu nous fais pas chier au niveau collectif. Merci d'avance. Et puis, ben, renseignez-vous sur ce qui se passe dans sarthe.demosphère.net, notamment le samedi 13, réservez votre fin d'après-midi, puisqu'il y a souvent une manif de fachos ce week-end-là, le 13, 12, 14 décembre. Eh ben, du coup, ce serait pas mal de faire une manifestation d'antifachos. Donc, renseignez-vous sur sarthe.demosphère.net et puis n'oubliez pas d'aller voir sur l'arnapé avec deux e à la fin .info. Il se passe des trucs, plein de trucs, trop de trucs. Et c'est pourquoi nous, en attendant de se croiser à l'une de ces manifestations ou ailleurs, on va tout simplement se dire au revoir.